L'amphi, l'émission étudiante.
Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, on reçoit le lauréat du premier prix de la dernière édition des 24 heures de l'éloquence qui s'est déroulée le 16 et le 17 février dernier. Bonjour, Julien Hatzenhofer.
Bonjour, Charlie.
Alors, on parlera de ce concours, de ce qui t'a poussé à y participer, de ta performance, mais aussi de ton activité de vitaviste. Puis, nous passerons directement aux chroniques étudiantes avec Marie et Titouan. Et enfin, on finira l'émission sur une chronique « Pourquoi lire en 2024 ?». C'est parti pour notre invité du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Julien Hatzenhofer, tu es étudiant en première année de droit, parcours humanité, éthique et numérique. Et tu as remporté le premier prix de la dernière édition du concours des 24 heures de l'éloquence. Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer ce que c'est que ce concours ?
Donc ce concours, c'était un concours qui est organisé par l'association Oralement, qui est une association destinée à promouvoir l'art oratoire dans, surtout pour les étudiants. Donc ça va, globalement ça se situe surtout sur l'université, mais on avait aussi un candidat, Léandre, qui était au lycée. Et donc cette association, elle a été créée l'année dernière. Et donc, ils organisent des conférences, des ateliers pour développer l'art oratoire et notamment donc, ce concours des 24 heures de l'éloquence. En fait, on était 16 candidats au début. Il fallait se présenter. On avait une vidéo à envoyer à l'équipe, à l'association qui, à ce moment-là, sélectionnait les potentiels candidats. Ils faisaient un tri. Et en fait, pendant 24 heures, on devait présenter des discours. Il y avait 4 étapes. Et à la fin, le dernier, en l'occurrence, j'ai eu cette chance, gagnait les 24 heures de l'éloquence.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à y participer ?
À vrai dire, c'était un peu par hasard, à savoir que j'avais une amie qui le faisait et qui n'était plus forcément sûre de le faire et qui m'a demandé si je voulais sa place. Et au final, on s'est mis d'accord pour le faire tous les deux. Et quelqu'un d'autre s'est désisté, donc j'y suis allé un petit peu par hasard.
Donc j'y allais par hasard.
C'est ça.
C'est étonnant comme histoire, ça.
Ouais, ouais.
Et alors, combien est-ce que vous étiez de candidats au début ?
Alors, au début, on était 16, mais au final, quelqu'un s'est désisté, donc on n'était plus que 15.
Ok. Ah, c'est pas mal déjà quand même, une quinzaine.
Ça commence à faire beaucoup, surtout sur un concours d'éloquence, puisqu'en fait, il y avait une première étape où on devait chacun présenter notre discours, donc on avait 10 minutes maximum.
D'accord.
Donc, on pouvait faire un peu plus ou un peu moins. Et donc, forcément, ça commence à prendre du temps. Puis les remarques du jury, les questions du jury. Donc, ça fait 10 fois 16 autant de discours. Et au final, la première étape était de 13h à 19h, donc ça a quand même pris mal de temps.
Ouais, d'accord.
Rien que pour la première.
Et cette première étape, elle consiste en quoi exactement ?
En fait, on a eu les sujets, on a eu une banque de sujets. C'était qu'on pouvait choisir librement, on pouvait prendre les mêmes que ceux d'autres personnes.
Mais parmi une banque de sujets, quoi.
C'est
ça. Tu choisis pas complètement librement non plus ton sujet.
Non, c'est ça. Il y avait des questions fermées, il y avait des citations de livres et d'autres citations de films. Et parmi ce sujet, on avait une semaine tout pile pour le préparer. Et donc, le vendredi 16 février 2024, à 13h, on entrait dans le bâtiment. On ne pouvait plus en sortir pendant 24 heures.
D'accord.
Et on a commencé notre discours.
Donc, ça se déroule vraiment en 24 heures continues, quoi.
C'est ça, il n'y a pas de pause. Et en l'occurrence, c'était plutôt du 26h que 24, parce qu'on a eu un peu de retard. Mais au final, à 2h près, on n'est plus à ça près.
Donc, ouais, c'est épuisant comme exercice, j'imagine, quoi.
Quand même, c'est éreintant parce que on a une semaine pour préparer notre premier sujet.
D'accord.
Et après, on a 3 autres sujets qu'on doit préparer durant toute la nuit. Donc, il y avait une première épreuve de 13h à 19h. Et à 19h, on avait les sujets qui, cette fois-ci, nous étaient imposés. C'était des questions fermées. Et on avait aussi les réponses aux questions qui nous étaient imposées, notre position. Donc, par exemple, il y en avait qui avaient « A-t-on le droit ?» à la paresse.
Ouais.
Et donc, ils avaient ce sujet qui était imposé et leur position qui était imposée. Donc par exemple, contre, et ils n'avaient pas le choix, ils devaient nécessairement défendre cette position.
Ah donc c'est pas évident ça, parce que du coup, non, c'était pas toi-même évident. Pas d'accord avec ta position, ouais, c'est particulier.
Oui, voilà, on se fait vite piéger en fait. Mm. Et c'est surtout, ça va être le rôle du jury un petit peu de nous déstabiliser pour voir si lors des questions, on est toujours sur la position qu'on a défendue, ou si au final, on nuance, voire on n'est pas du tout d'accord, et à ce moment-là, on marque de points négatifs.
D'accord, ah oui. Ouais, donc c'est limite un peu désavantageux quand même pour certains si jamais ils se retrouvent avec une position imposée qui est pas la leur et d'autres qui se retrouvent avec une position avec laquelle ils sont plus en accord. C'est sans doute plus facile.
Mais complètement. Et en fait, on avait le choix parce qu'on tirait deux papiers, donc on était forcément contre quelqu'un. Et si on arrivait à se mettre d'accord avec cette personne, l'un pouvait prendre le pour, l'autre contre.
Donc il y a une petite marge de manœuvre.
C'est ça. Mais sur ma demi-finale, on était tous les deux pour.
Ok.
J'ai perdu, donc je suis allé en contre et au final. On était tous les deux contre à la fin, donc ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à analyser les arguments qu'on pourrait avoir, qui seraient contre notre position, pour les détruire d'avance, justement, pour désamorcer la chose.
Ça marche. Alors, il y a juste un petit point que je ne comprends pas, du coup. Tu as dit que pour la première étape, vous aviez une semaine pour préparer.
Oui.
Par contre, tu as dit quand même que cette première étape, elle occupait de 13h à 19h. Pourquoi c'est aussi long, du coup, si vous avez déjà préparé à l'avance?
Parce qu'en fait, fallait qu'on déclame donc notre discours. On avait 10 minutes, puis il y avait les questions du jury.
D'accord.
Et en fait, on était 16, enfin, en l'occurrence 15.
C'est le passage successif à chacun, en fait, qui a rendu le truc long. D'accord.
C'est ça.
Et alors, comment est-ce que tu préparais tes interventions?
Alors en fait, je pense déjà qu'il faut décomposer l'événement, puisque on avait la première épreuve de 13h à 19h, où l'on on attendait, en fait, on avait nos sujets, quand c'était notre tour, on passait. À côté, on avait différentes interviews avec le studio qui était là. Donc le studio, c'est une association d'audiovisuel qui est basée sur Le Mans principalement, et elle a une petite antenne sur Laval principalement, et qui a une petite antenne sur Laval. Donc on faisait ça. Et après, de 19h à minuit, on avait... Donc notre sujet, notre nouveau sujet, et là on devait préparer ce sujet. De minuit à 3h, on avait la deuxième étape, et après la plus dure, c'était probablement de 3h à 8h du matin, où là il fallait encore préparer un nouveau sujet. On passait jusqu'à 11h, et après la finale, où là c'était vraiment dur, parce qu'on n'avait qu'une seule heure pour préparer un discours, le mettre en voix sur une question qui nous était imposée. Donc j'ai
un discours qui doit durer combien de temps d'ailleurs ?
Environ 10 minutes,
ah oui.
Voilà, plus ou moins, si on arrive à faire plus. En fait, il faut quand même que ce soit efficace, il ne faut pas qu'on soit trop lent, qu'on arrive toujours à avoir l'attention du public et surtout du jury. Et j'ai eu une chance parce qu'en fait, lors de la première étape, il y avait une des personnes qui était sélectionnée, c'était le candidat étoile, qui allait directement en demi-finale, donc qui ne faisait pas l'épreuve de minuit à 3h.
Okay.
Donc, je n'ai pas fait cette étape. Donc, j'ai eu un petit avantage quand même.
Ok, d'accord. Mais alors, ouais, sur la dernière, il y a une heure seulement pour préparer une intervention de 10 minutes.
Ouais, ouais, c'est très court.
Ouais. Et tu as le temps de tout rédiger en une heure ou c'est des notes
J'avais tout rédigé pour ma part et
d'accord.
Je crois que donc il y a Noémie qui a fini deuxième et Clara qui a fini troisième qui avait aussi tout rédigé. Et donc c'est sûr que c'est court, mais justement c'est là qu'on voit si on se débrouille bien. Et mais c'est vrai que c'est quand même très difficile, il faut des fois aussi un peu improviser.
Ouais, et puis il y a presque un côté quasiment automatique dans l'argumentation hein. Quand on arrive à produire en une heure une argumentation de 10 minutes, c'est quand même une performance.
Oui, surtout que le sujet, c'était « Fallait-il croquer la pomme ?» Donc là, il fallait répondre oui ou non. Et c'est assez compliqué si on ne s'y connaît pas en théologie, par exemple. Et je ne m'y connaissais pas forcément. Et donc, j'ai dû regarder plusieurs sources. Et en fait, il y a plein de sources qui discordent. Donc, c'est quand même relativement compliqué, en effet.
Et donc, fallait-il croquer la pomme ? Est-ce que tu as dû traiter d'autres sujets, du coup, pendant ce concours ?
Alors, oui, mon tout premier sujet que j'avais donc une semaine pour préparer, c'était « La vie a-t-elle un sens ?»
Ok.
Donc,
c'est vaste comme sujet.
C'était très vaste, voilà, on en avait d'autres. Par exemple, les souvenirs disparaissent-ils lorsqu'on les oublie ? Et après, il y avait des citations, par exemple, « Que d'hommes se pressent vers la lumière, non pas pour mieux voir, mais pour briller, d'ainsi parlait Zarathoustra » de Friedrich Nietzsche. Donc voilà, donc moi je suis parti sur « La vie a-t-elle un sens ?» et on était 4 en tout à présenter ça, donc c'était assez risqué, parce qu'il fallait réussir quand même à se démarquer des autres.
Ah oui, parce que vous étiez plusieurs à choisir le même sujet, il n'y avait pas un sujet par personne.
Non. Bah là, on était le plus nombreux en fait, 4 là-dessus. Et donc mes 3 autres concurrents avaient dit que la vie avait un sens, et j'ai eu plutôt de la chance parce que j'ai dit que la vie n'avait pas de sens. Donc ça m'a permis quand même de me démarquer des autres. Donc la deuxième étape, eh bien, je ne l'ai pas passée puisque je suis passé directement en demi-finale. Et en demi-finale, c'était « Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?» Et j'ai eu la position qui était imposée, la position contre.
Okay.
Et le dernier, fallait-il croquer la pomme? Où on a tous répondu que oui, il fallait croquer la pomme, mais pour des raisons diverses et variées.
D'accord. Alors, on a vu que tu rédigeais pas mal tes textes, mais tu as quand même mentionné l'utilisation de l'improvisation. Quelle place est-ce qu'elle a, en fait, l'improvisation dans cet exercice?
Alors, dans le discours, il n'y a pas vraiment d'improvisation, en fait, parce que l'éloquence... Normalement, l'éloquence, ce serait que de l'improvisation si vraiment on était très fort. Bon, je suis quand même relativement médiocre en éloquence, donc moi, c'était tout écrit. On a eu un candidat, Flavien, qui a essayé de tout faire un peu en improvisation.
Ah ouais.
Mais il a été éliminé lors de la deuxième étape, parce qu'en fait, c'est compliqué. C'est sûr que face à des personnes qui connaissent très bien leur texte, mon premier texte, je le connaissais par cœur, donc forcément, il avait un petit peu un désavantage. Mais l'improvisation, c'est surtout au moment des questions du jury, où là, il va falloir répondre vite et répondre pertinemment.
Alors ouais, cette étape de questions des jurys m'a fait demander, est-ce que du coup... C'est purement du monologue, cet exercice des 24 heures de l'éloquence, ou est-ce qu'il y a une part de débat à un moment ou à un autre?
Il y a quand même très peu de débat, ça va, parce que lorsque l'on récite notre texte, on ne peut pas vraiment débattre puisqu'on est tout seul, mais c'est lors des questions du jury où là, ils vont pouvoir un peu plus venir nous taquiner, nous titiller sur les points, où ils voient qu'éventuellement, on a un peu moins de stabilité. Et là, effectivement, il va y avoir un peu plus de débat. Et d'autant plus lorsque l'on va être en duel, donc en pour ou contre, et lorsque notre adversaire va passer en premier, à ce moment-là, on pourra lui répondre.
D'accord.
Lui n'aura pas cette chance.
T'aurais aimé qu'il y ait une épreuve un peu de débat entre deux candidats, justement?
Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est du direct, c'est de l'attaque. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche parce que l'association oralement elle essaye un peu plus que ce soit quand même dans la bonne humeur, dans le partage, et pas qu'on soit là à se tirer dessus les uns
après,
les autres.
On peut débattre cordialement, heureusement.
C'est sûr qu'on peut débattre cordialement, mais c'est toujours plus simple en fait d'attaquer les autres lorsqu'on n'a plus forcément d'arguments. Et pour un premier exercice, ça aurait été quand même très compliqué.
D'accord.
Surtout que on avait donc Léandre qui était en terminale et on avait des personnes qui étaient en master. On avait Mohamed qui était en L2 mais qui avait 38 ans. Donc là, ça n'aurait pas forcément été très égalitaire.
Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu justement des autres candidats? Est-ce qu'ils t'ont rendu la tâche difficile?
Particulièrement Noémie, donc, qui a fini deuxième. Et c'était assez particulier parce qu'on était 15 et on ne se connaissait pas. Parce que, par exemple, Noémie, elle venait de Lyon. Donc voilà, elle est en commerce.
Ah, oui. C'est pas que des étudiants du Mans?
Non, non, non.
D'accord.
C'est ouvert à tous. Bah, après, c'est sûr que c'est plus simple quand on est sur le Mans parce que ça commence le vendredi à 13h, ça finit le samedi à 15h, plus ou moins. Mais donc, ils m'ont donné du fil à retordre, surtout Noémie. Et c'est sympathique parce que maintenant, on s'apprécie. Et donc avec Noémie, on était assis ensemble dès le début, juste à côté. Et on s'est un peu liés d'amitié, puisque finalement, 24 heures ensemble, enfermés, ça rapproche quand même un petit peu. Et on était dégoûtés, puisque lors de la demi-finale, on est tombés l'un contre l'autre. Donc on aurait dû être éliminés. Un de nous deux aurait dû partir. Et les règles ont été un petit peu modifiées pour nous. Donc nous en savons gré pour vis-à-vis des jurys, mais... voilà, oui, c'est sûr que c'est pas simple. Et en même temps, à vaincre sans défi, on triomphe sans gloire. Donc, on est très content qu'il y ait quand même un petit peu d'adversité.
Et alors, comment est-ce que tu t'étais préparé pour ce concours? Alors là, je ne veux pas parler de la préparation du premier texte. Je veux dire la préparation en général à un exercice d'éloquence, quoi.
Eh bah, à vrai dire, je ne m'étais pas vraiment préparé.
D'accord.
Puisque ce n'était pas prévu que je participe
effectivement.
Au concours. Et je me suis greffé au concours 2 semaines avant. Donc c'était un petit peu de l'improvisation. J'ai commencé à lire un livre, sur l'éloquence, ça m'a saoulé. Donc j'ai arrêté. Et au final, j'ai quand même fait 6 ans de théâtre. Donc j'ai quand même une petite facilité. Et après, c'est venu plus ou moins naturellement. J'ai écrit mon texte, je l'ai appris et puis voilà.
Et alors, quelle est ta méthode d'ailleurs pour rédiger le texte dans le temps imparti?
Alors là, j'ai pas vraiment de méthode, c'est-à-dire que ça vient plutôt tout seul.
D'accord.
C'est au bout d'un moment, il y a Olivier Lacote qui était maître Olivier Lacote, qui est toujours avocat et qui était un membre du jury, qui justement a demandé à un candidat s'il avait un plan, et j'aurais été bien embêté de répondre à cette question parce que c'est plutôt linéaire. J'essaye d'avoir tout un cheminement, c'est pas forcément un plan comme on pourrait avoir.
C'est pas un plan didactique, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est pas du oui, non ou des choses comme ça, puisque de toute façon, on est obligé de défendre une position, donc le oui, non, ce serait pas possible. Mais c'est vraiment de la linéarité et j'essaye qu'en fait, ça coule tout seul, ça vienne tout seul.
Et alors, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté en fait ? Quelles compétences tu sens que t'as développées ?
Alors, je sais pas forcément si j'ai développé des compétences, parce que. Donc, avant, on avait quand même l'association Oralement qui nous préparait. On avait des séances, en fait, où ils nous expliquaient un peu les techniques de l'art oratoire. Mais j'y suis pas allé. Donc, j'ai pas forcément appris. Mais ça m'a surtout apporté. Déjà, je suis là, grâce à ce concours, ce qui est plutôt pas mal. J'ai pu débloquer un stage. J'ai un professeur qui m'a proposé d'être mon référent de thèse.
Okay.
Et au final, parce que c'est quand même l'Université du Mans, en première année en droit, on est 400 dans l'amphithéâtre, donc les professeurs ne nous connaissent pas du tout. Et là, il y a un peu plus de proximité qui s'est créée avec les professeurs, avec le doyen de l'université, avec le président aussi. Donc, c'est sympathique, puis des connaissances, un réseau en fait.
Donc, tu disais, tu as trouvé un stage dans quoi du coup ?
Alors, j'ai un stage, donc, pour avril-mai, pour 3 semaines. Et donc, ça tombe plutôt bien parce que pour l'instant, j'ai fait du droit de la famille. Donc, je vais aller chez une avocate en urbanisme.
D'accord.
Donc, pas du tout ce que je fais. Mais pourquoi pas, à la découverte.
Mais du coup, tu prévois d'en faire quelque chose de cette aptitude au discours ?
Oui, je ne sais pas si vraiment j'ai une aptitude, mais...
je pense quand même, si, quand même, du coup.
En tout cas, il y a le concours national d'éloquence auquel je vais participer parce qu'en fait, c'était le premier prix pour le gagnant qui va se dérouler normalement à Metz le 25 mai.
Ok.
Et voilà, pour l'instant, je n'ai pas forcément plus de projets avec ça.
Ok. Alors, on va passer brièvement à une autre facette de ton activité. Tu es également chroniqueur sur Vitav. Tu peux juste nous expliquer en quoi consiste ce webzine ?
Donc, Vitav, c'est le webzine qui est financé par la ville du Mans. Et donc, ce sont des étudiants, des jeunes, du lycée jusqu'à 25 ans, je crois, qui peuvent donc rédiger des articles sur ce qui leur plaît, voire même aussi participer à des chroniques radio toutes les deux semaines, c'est sur Cartable FM. Et donc, ce sont des gens, des jeunes qui viennent présenter ce qu'ils aiment.
Et t'as déjà fait de la radio sur Cartable FM d'ailleurs ou pas ?
Oui, toutes les deux semaines, j'y participe. Donc, on a des chroniques foot, on a des événements d'actualité. Et moi, je fais que de l'humour, je raconte ma vie.
Ok, d'accord. Et depuis quand tu fais des piges pour Vitav ?
Depuis août 2023.
D'accord. Et c'est quel sujet que tu abordes en général ?
Globalement, un peu tout. Alors là, c'est plutôt drôle parce que j'avais prévu de faire un article sur le gagnant du concours de l'éloquence.
Okay.
Mais à ce moment-là, j'y participais pas encore.
Ah,
puis
oui.
Après, je me suis greffé au concours, puis j'ai gagné. Donc, un peu compliqué.
T'as quand même fait l'article, quoi.
Oui, j'ai quand même fait un article dessus, un peu pompeux, un peu vaniteux. J'ai gagné les 24 heures de l'éloquence, mais bon. Il fallait bien que j'honore cet article, mais sinon je fais principalement sur des expositions, du théâtre, des spectacles, parce que j'ai fait 6 ans de théâtre et j'ai des amis qui continuent là-dedans, donc qui vont en faire leur métier. Donc j'essaye de leur apporter un petit peu de visibilité et aussi des chroniques livresques.
Ok. Alors est-ce que ton activité de pigiste t'a aidé d'une manière ou d'une autre pour les 24 heures de l'éloquence ? Est-ce que tu sens que t'as utilisé des choses que tu savais faire grâce à ton activité de pigiste ?
Pas du tout.
C'est honnête un petit peu.
Non, c'est complètement différent parce que sur Vitav, je suis limité à 350 mots.
Ouais.
Donc c'est très court et c'est sur un sujet très précis. J'ai pas le temps de bien développer. Alors que là, pour les 24 heures de l'éloquence, c'était 3 pages par discours. Il y avait un peu plus de créativité, un peu plus de style aussi, puisqu'il faut le mettre en voix. Et c'est complètement différent d'écrire un texte pour que quelqu'un le lise et d'écrire un texte pour le déclamer.
À la limite, du coup, ce que tu fais pour Cartable FM, peut-être que là, ça t'a été utile, ça, non ?
Là, peut-être un peu plus, oui, en effet. Donc, à chaque fois, je fais des chroniques de 3 minutes, 4 minutes sur ce qui se passe dans la vie. Souvent, des bêtises. Par exemple, un de mes derniers billets, c'était face à l'inflation, manger des cailloux.
Okay.
Donc, c'est que des choses farfelues. Mais là, effectivement, il y a peut-être un peu plus ce côté... de cabotinage que je vais avoir pour
l'humour, c'est pas ça. L'humour, c'est pas forcément ce que tu as utilisé pendant les 24 heures de l'éloquence.
Alors si, un petit peu mais c'est vrai que c'est très minime, ça dépend aussi de quoi on parle.
Ouais.
Parce que par exemple, Noémie, serait-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ? On parlait quand même d'un viol, donc c'est compliqué là de faire de l'humour. Mais moi, sur La vie a-t-elle un sens, si, j'ai réussi à mettre des petites blagues. Et c'est ça aussi qui va faire qu'éventuellement, le jury va plus voter pour toi. Il faut être quand même relativement complet.
Eh bien, merci beaucoup, Julian Atzenhofer, d'être venu nous parler de ton expérience durant le concours des 24 heures de l'éloquence. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Alors, on fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Motorline et Sonic Area le 21 mars au théâtre de Chaouet en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Chaka Ponk, I'm an Eloquent.
And there's a
De retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et aujourd'hui, on est avec Marie. Salut Marie. Ah oui, alors attends, c'est pas le bon micro que j'ai activé. Tac, tu peux me dire salut du coup.
Alors, donc salut Charlie.
Yes, cette fois on t'entend, super. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un chanteur que j'apprécie depuis que je suis petite. Donc, c'est M. Mmh. Et je pensais que ça pourrait être intéressant de faire une sorte de récap de sa carrière.
Et bah, c'est parti.
Donc, voilà. Alors, M, de son vrai nom Mathieu Chédid, est un chanteur-compositeur français qui est très présent sur la scène française depuis les années 90. Il est né en décembre 1971 à Boulogne-Billancourt, dans une famille d'artistes. Son père, Louis Chédid, est également un célèbre chanteur et compositeur, et sa grand-mère, André Chédid, était une écrivaine de renom. Autant dire que le talent coule dans ses veines. M a débuté sa carrière musicale dans les années 90 en tant que guitariste pour différents artistes français, avant de se lancer en solo avec son premier album Le Baptême en 97. Cet album, bien que discret à sa sortie, a posé les bases de son style, mêlant habilement le rock, la pop, le funk et des influences orientales. Des titres comme Machista d'or et La Bonne Étoile ont attiré l'attention sur son talent et sa voix reconnaissable entre mille. Il est repéré par la chanteuse Vanessa Paradis cette même année, qui entend sa chanson Le Baptême à la radio et qui va immédiatement demander le contact de ce nouvel artiste. C'est le début d'une collaboration mythique entre les deux chanteurs et ça permet à M de gagner en popularité. Pardon. Cependant, c'est avec son deuxième album Jeudi M, sorti en 1999, que M a véritablement conquis le public. Ce disque, porté par des singles à succès tels que Jeudi M, Onde Sensuelle et Monde Virtuel, a propulsé la carrière du chanteur. Avec sa fusion éclectique de genres musicaux et ses paroles poétiques, M est devenu un véritable phénomène. La tournée qui suit son album connaît un franc succès et, plus généralement, ses concerts sont des pièces de théâtre où il incarne un personnage. Il change de personnalité et de style à chaque album, à l'instar de Bowie, tout en gardant sa marque de fabrique, sa coupe de cheveux en forme de M. En 2003, M sort son troisième album studio, Qui de nous deux, qui a été un succès commercial immédiat, avec des tubes comme Qui de nous deux et La dernière danse. Et grâce à sa célèbre guitare rose, l'album a consolidé la place de M en tant qu'artiste important de la scène musicale française. Son style musical a été salué par la critique et a conquis un encore plus large public. En 2009, il dévoile Mister Mystère, un album plus expérimental et introspectif que ses précédents travaux. Cet opus explore de nouveaux horizons sonores tout en conservant l'essence même de M. Des chansons comme Mister Mystère et Âme c'est tout démontre son évolution artistique et sa capacité à surprendre son public. Plusieurs chansons de cet album ont été écrites par Brigitte Fontaine, dont le cycle Tanagra. Il réalise aussi d'autres projets, tels que la BO du film d'animation Un monstre à Paris, et il travaille aussi pour d'autres artistes importants, dont Jane Birkin, Alain Bashung, Cassius, Vanessa Paradis, mais aussi pour Diams. Et oui, la guitare et les chœurs qu'on entend dans Jeune Demoiselle, c'est lui. En 2012, M a publié Île, un album conceptuel inspiré par l'île de la Réunion. Avec ses sonorités tropicales, cet album renforce le vaste style de l'artiste. Plus récemment, M a continué d'explorer de nouveaux territoires musicaux en mettant en avant des sonorités du monde entier qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre si on n'est pas familier avec ces styles de musique. C'est par exemple ce qu'on entend dans ses albums L'Anomalie et L'Être Infini. Pour terminer, je dirais que M est un artiste polyvalent qui sait se démarquer et qui se renouvelle en proposant des projets originaux à chaque fois. C'est un artiste qui sait se démarquer et bien évidemment, je vous conseille d'écouter ou de le réécouter si vous aimez le rock ou le funk.
Eh ben merci beaucoup Marie, j'ai appris plein de trucs. Je ne savais pas que Brigitte Fontaine avait écrit pour lui par exemple.
Donc, ah bah.
Merci pour l'info.
Merci à toi.
Moi je suis un gros fan de Brigitte Fontaine. Eh ben on va illustrer tout de suite ta chronique avec M, le baptême.
Monsieur. je vole au-dessus des messes. Je ne crois plus aux belles promesses. Je vais dîner toute ma tristesse. J'opte pour la. Je suis apte pour le M. J'ai changé mon matricule immaculé. Je mets un M. J'opte pour la. Je suis apte pour le M. Qui les bons de faire ce qu'on aime. À même la peau, à même les veines. C'est un coup de vent mystique. Ce vent m'a démorfié. Je me sens léger comme l'air. Je ne crois plus en l'éphémère. Car j'opte pour la. Je suis apte pour le M. J'ai changé mon matricule immaculé. Je mets un M. J'opte.
Retour dans l'amphi pour la suite des chroniques étudiantes. Et à présent, on va écouter Titouan. Salut Titouan.
Bonjour.
De quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au groupe de rock The Clash.
Ok, bah c'est parti.
Alors fondé en 1977 à Londres, The Clash est rapidement devenu l'un des groupes les plus emblématiques du mouvement punk rock, aux côtés des Sex Pistols. Le groupe, il était composé de 4 membres. Joey Strummer, Mike Jones, Paul Simonon et Topper Hayden. Ensemble, ils ont repoussé les frontières de la musique en fusionnant le punk rock avec une multitude d'autres genres musicaux, créant ainsi son unique et inimitable. Le groupe a ainsi su marquer son époque par sa musique engagée et son énergie brute. Leur premier album éponyme, sorti en 1977, a instantanément capturé l'essence rebelle du mouvement punk avec des morceaux comme White Riot et London's Burning. Mais The Clash ne s'est pas contenté de suivre les normes établies. Ils ont rapidement élargi leur palette musicale en incorporant des éléments de reggae, de dump et de funk dans leur musique. Cet album, il est rapidement salué par la critique et devient un succès commercial au Royaume-Uni. Malgré des départs et des remplacements au sein du groupe, notamment de Levin et Shimes, The Clash maintient son élan créatif et politique. Le groupe, il se distingue non seulement par sa musique énergique et provocatrice, mais aussi par son engagement social et politique. Leurs chansons abordent des thèmes tels que l'injustice sociale, le chômage, le racisme et la brutalité policière, reflétant ainsi les réalités dans la vie de la Grande-Bretagne des années Thatcher. Leur image de rebelle est renforcée par leurs vêtements customisés, arborant des slogans révolutionnaires et leur démêlés avec la justice qui font d'eux des figures emblématiques de la contre-culture punk. Au-delà de leur impact musical, The Clash demeure un symbole de la jeunesse en révolte, incarnant l'esprit contestataire d'une génération en quête de changement et de liberté. C'est avec leur deuxième album, Give 'Em a Long Europe, sorti en 1978, que The Clash a commencé à attirer l'attention à l'échelle internationale. Malgré quelques désaccords avec leur maison de disques sur la direction artistique, l'album il a été un succès critique et commercial. Malheureusement, il n'a cependant pas atteint le même niveau de succès aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, mais il a introduit le groupe sur la scène américaine. Leur premier album a également été publié aux États-Unis cette année-là, bien qu'avec des modifications de la liste des titres pour inclure des singles sortis entre les deux albums. Le point culminant de leur carrière est survenu en 1979 avec la sortie de l'album London Calling. Cet opus magistral, double album audacieux, a transcendé les frontières du punk rock en incorporant des éléments de reggae, de ska et de rockabilly, et même de pop. Des chansons comme Club Dawn, Train in Vain et le titre éponyme London Calling sont devenus des hymnes pour toute une génération. Poursuivant leur exploration musicale, The Clash a sorti en 1980 l'ambitieux triple album Sandinistra. Ce projet colossal mêlant club, rap, funk et gospel a divisé les critiques, mais reste un témoignage de la créativité et de l'audace du groupe. Malgré leur succès, des tensions ont commencé à émerger au sein du groupe, exacerbées par l'épuisement d'une tournée incessante et les défis créatifs posés par leur approche expérimentale de la musique. En 1982, ils ont publié Combat Rock, un album qui comprend des tubes mondiaux tels que Rock de Casbah et Shoulder Stay or Should I Go. Cependant, des tensions internes ont commencé à émerger au sein du groupe, ce qui a conduit à des changements de formation. Les conflits se sont exacerbés, notamment en raison des problèmes de toxicomanie de Topper Hayden, le batteur du groupe, qui a été contraint de quitter le groupe. La tournée pour promouvoir l'album, pourtant un énorme succès, a été marquée par des querelles incessantes entre les membres, en particulier Jones et Strummer. Des incidents violents, comme celui où Mike Jones a lancé un verre au visage de Strummer, ont mis en évidence les tensions au sein du groupe. La dépendance à la drogue de Hayden a également été un facteur de discorde entraînant son départ. Après des auditions pour trouver de nouveaux membres, Jones a été évincé du groupe en 1983 sur l'insistance de Bernie Rhodes, le manager du groupe. Une nouvelle formation a été mise en place, mais elle n'a pas réussi à retrouver le succès et a été considérée comme un échec artistique. Entre 1984 et 1986, le groupe il a connu une période tumultueuse marquée par des enregistrements chaotiques et une dernière tournée étrange. Les sessions d'enregistrement de l'album Cut the Crap ont été tumultueuses avec des tensions entre Bernie Rhodes et Joe Strummer. La plupart des parties musicales ont été jouées par des musiciens de studio avec Nick Shepard et plus tard Vince White ajoutant des bouts de guitare par-dessus. En luttant pour le contrôle du groupe, Strummer il a finalement décidé de se retirer du projet. Pendant ce temps, le groupe est parti en tournée avec des règles strictes, imposant aux membres de ne transporter que 10 livres sterling et des sous-vêtements de rechange. Ils ont donné des concerts acoustiques dans des lieux publics à travers le Royaume-Uni, interprétant des versions dépouillées de leur succès ainsi que des reprises. Après un concert à Athènes, Strummer il s'est retiré en Espagne pour réfléchir. Au début de 1986, lui et Paul Simonon ont officiellement dissous le groupe. Le premier single de l'album Cut the Crap, This is England, a été accueilli avec scepticisme et l'album lui-même a été largement remixé par Rhodes, ajoutant des éléments synthétiques aux enregistrements inachevés de Strummer. Malgré la compétence de Pete Howard à la batterie, toutes les pistes rythmiques ont été produites à l'aide de boîtes à rythme. Certaines chansons jouées lors de la tournée n'ont jamais été publiées, laissant les fans avec un aperçu inachevé de la fin tumultueuse de The Clash. En 2003, le groupe il est intronisé au Rock and Roll Hall of Fame.
Eh ben merci beaucoup Titouan pour ta chronique. On l'illustre tout de suite avec Right Riot. Et pendant qu'on écoute Right Riot, vous pouvez gagner des places pour Armand Méliès, soirée Honte Silencieuse, le 24 mars au théâtre de Chaouet, en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute donc Clash, White Riot. retour dans l'amphi pour une chronique Pourquoi lire en 2024.
Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
Avez-vous déjà vu le film L'Histoire sans fin ? C'est mon film préféré de tous les temps. J'adore tout dans ce film. L'univers, les créatures, la lumière, les effets spéciaux pratiques et jusqu'au côté ultra kitsch. Si vous voyez de quoi je parle, vous vous souvenez sans doute de la scène où le petit garçon héros du film, Bastien, se réfugie dans une bibliothèque pour échapper à des voyous. Intrigué par le livre que lit le bibliothécaire, Bastien l'interroge à ce sujet. Et le vieux lui fait une réponse bizarre. Il rappelle d'abord à Bastien la peur éprouvée quand on se met à la place des personnages de romans comme le capitaine Nemo en proie au Kraken. Ce à quoi Bastien répond que ce ne sont que des histoires, que même si on a peur, on sait qu'au fond, on ne craint rien. Le vieux opine. Effectivement, ce ne sont que des histoires. Mais ce livre n'est pas pour toi. Ceci n'est pas pour vous. Ainsi commence l'œuvre immense de Mark Z. Danilowski, La Maison des Feuilles. Voilà un livre qui redonne au fantastique ses lettres de noblesse. En me renseignant un peu sur la réception de ce livre, que l'auteur a mis 12 ans à écrire tout en vivant de job alimentaire, j'ai appris que beaucoup de lecteurs n'avaient pas pu mener leur lecture jusqu'au bout et que La Maison des Feuilles, alors qu'elle a été publiée relativement récemment, en 2000, prend déjà des allures de livre maudit. Pourquoi La Maison des Feuilles est aussi terrifiant ? Il y a d'abord l'exigence de lecture qu'elle implique. En effet, ne vous attendez pas à une lecture paisible et passive. Il vous faudra fournir un effort mental et même physique quand vous devrez tourner dans tous les sens le lourd volume pour pouvoir suivre sa mise en page chaotique. Mais il me faut vous en dire plus sur ce que raconte La Maison des Feuilles. Le livre se présente comme l'œuvre d'un certain Johnny Errant, qui raconte avoir emménagé dans l'appartement d'un vieil homme, Zampano, et avoir découvert dans une malle un épais manuscrit sur lequel travaillait le vieillard. En lisant le manuscrit, Johnny découvre qu'il s'agit d'une thèse extrêmement complexe à propos d'un film, le Navidson Record. La thèse multiplie les références multidisciplinaires, de chercheurs ou d'artistes, et fait ainsi parler plusieurs véritables personnalités à propos du Navidson Record. Problème, le Navidson Record n'existe pas, pas plus dans notre réalité que dans celle de Johnny Errant. Ce qui signifie que le vieux Zampano a tout inventé, y compris un bon nombre des références qu'il cite. Un travail titanesque et fou. Mais La Maison des Feuilles n'est rien d'aussi simple qu'une histoire de fou. Ou peut-être que si. Mais il me faut à présent vous parler du film, le Navidson Record. Vous commencez à comprendre pourquoi La Maison des Feuilles est si complexe. Elle est composée de nombreuses strates de récits qui s'imbriquent, se croisent, se contredisent, entremêlant dangereusement, indistinctement, le réel et la fiction. C'est pourquoi il est si compliqué d'en faire un résumé clair. À travers la thèse de Zampano, on apprend que le Navidson Record est un reportage sur la famille de Navidson, ancien photoreporter, qui emménage dans une nouvelle maison. Mais celle-ci se révèle très vite hostile en ouvrant un couloir impossible dans un mur. Ce couloir s'enfonce dans un labyrinthe hanté par une obscurité froide, des murs qui bougent, un escalier en spirale qui s'étend à l'infini ou se contracte. Toute cette architecture fonctionne presque comme les boyaux de quelques créatures titanesques et n'est évidemment pas sans rappeler le labyrinthe et son minotaure qui rôde peut-être lui aussi dans ses murs. La menace n'est jamais clairement déterminée, même si elle est toujours là, avec évidence. Et ce labyrinthe dans lequel se perd Navidson, c'est également celui dans lequel se perd Zampano et sa thèse d'une complexité parfois absurde, qui digresse, adopte une mise en page incompréhensible. C'est aussi le labyrinthe de Johnny Errant, fasciné par le manuscrit et par les échos de sa propre histoire, et qui sombre peu à peu dans la folie. C'est enfin le labyrinthe dans lequel plonge le lecteur de La Maison des Feuilles, qui doit démêler les différents récits et errer dans la mise en page qui cherche à le perdre. Le livre regorge de petites inventions qui, toutes ensemble, construisent un saisissant effet de miroir, où le lecteur devient le maillon suivant de la chaîne des personnages, englouti dans le monstre qu'est La Maison des Feuilles. Mais quel est ce monstre ? Le Minotaure ? L'obscurité ? Les murs ? Nos propres démons ? Ou le livre ? Dans La Maison des Feuilles, le mal n'a pas de nom, n'a pas de visage. Et c'est ce pourquoi tous ceux qui le poursuivent se perdent. Navidson veut fixer l'image de l'obscurité mouvante. Zampano veut expliquer l'inexplicable. Johnny veut connaître la source du mal, d'abord celui de la mort du vieux, puis de son propre mal-être. Et le lecteur, le sens de ce qu'il est en train de lire. La Maison des Feuilles, c'est la succession des vaines tentatives de reconnaître l'inconnu. Alors oui, ce n'est pas étonnant que certains en aient abandonné la lecture. Il faut accepter de ne pas tout comprendre, de se perdre dans le dédale, de ne jamais rencontrer le Minotaure, tout en le suspectant toujours au coin du prochain tournant, ou juste derrière soi. Il y a plusieurs façons de lire, et surtout de relire La Maison des Feuilles. Il s'est créé toute une communauté de fouineurs sur des forums Reddit qui cherchent à trouver le code qui expliquera le monstre. Ils trouvent, par-ci par-là, de petits éléments, des cachettes, des joyaux sombres. Mais je crois qu'ils ne font que s'enfermer davantage dans le labyrinthe. La meilleure chose à faire quand on se confronte à La Maison des Feuilles, c'est de s'en sortir. Si possible, sans abandonner derrière soi une case en moins. Mais alors, on sera passé à côté du gouffre. Aller jusqu'au bout du livre ou s'arrêter en chemin. C'est le même choix que doit faire l'homme face au réel. Garder l'équilibre ou vivre la chute. Bref, lisez La Maison des Feuilles en 2024.
Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place. We'll be right back.
Merci d'avoir suivi l'Amphi. On se retrouve lundi 18 mars pour parler de la finale régionale du concours Mathèse en 180 secondes, mais également du spectacle Parpaing de Nicolas Petitzoff. Et bien sûr, la chanson qu'on vient d'entendre, c'était Non Essential Man de Kokomo. À bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi. L'émission étudiante.
Étudiante.
Radio Alpa, l'alternative.